poussière d'étoiles.
Jeunesse, si tu savais, des témoins. Aujourd'hui, avec le monde médical, l'ANEC.
La chapelle presque déserte baigne dans l'obscurité. Un homme est à genoux devant le crucifix. Il semble entendre les poumons de l'homme en croix, inspirer, expirer, avec de plus en plus de difficultés, exercer leur fonction vitale avec de plus en plus de bruit, et dans la tête du médecin agenouillé, les râles du crucifié se confondent avec ceux des malades qu'il a perdus, faute de soins appropriés. Mais à cet instant, c'est une prière d'action de grâce qui monte de ses lèvres. La découverte qu'il vient de faire va permettre au médecin de mieux identifier les troubles pulmonaires et cardiaques des malades. Cet homme est René Théophile Hyacinthe Laennec, docteur en médecine. Il vient d'inventer le stéthoscope. En ce début du 19e siècle, la tuberculose est un fléau qui décime des générations entières. Le petit instrument qu'il vient de concevoir va améliorer considérablement le diagnostic des médecins, leur permettre de mieux suivre l'évolution de la maladie et donc de mieux la traiter. La tuberculose est la maladie du 19e siècle, même si elle n'est pas la seule. La syphilis et la menace de dégénérescence de la race qu'elle engendre et la lèpre, que l'on songe à ce mouroir que fut l'île de Molokai avant le père Damien, hantent les consciences. Les réflexes d'exclusion que ces maladies suscitent marquent les politiques sanitaires du siècle. Esquirol prescrit d'enfermer les aliénés dans des institutions spécialisées. Parent du Châtelet conçoit un système de réglementation stricte des prostituées. La tuberculose, cependant, est une figure à part. Partout, les gens meurent par dizaines de milliers, fauchés en pleine force, les poumons ravagés, l'organisme usé par cette tuberculose. La littérature en témoigne abondamment. Zola explore les entrailles de l'épidémie dans Germinal. Dostoïevski la fixe en quelques portraits inoubliables, ceux de l'alcoolique Marmeladov dans Crime et Châtiment et d'Hippolyte dans L'Idiot. En particulier, Alexandre Dumas fait de la Dame aux Camélias la romantique héroïne du drame de ce siècle. Les sanatoriums ne sont en définitive que des mouroirs et les centres de thérapeutique par le travail ne donnent que des résultats médiocres. Dans la vie quotidienne du 19e siècle, rien n'endigue la progression de l'épidémie. La misère et la promiscuité, dans laquelle vivent de larges couches de la population, n'arrangent rien. La maladie fait des ravages. Laennec, né à Quimper en 1781, élevé dans une foi ardente, monte à Paris pour obtenir son diplôme de médecin, ce qu'il fait brillamment avant de travailler à l'hôpital Necker, dans le service des pulmonaires chroniques. En même temps, il ouvre un cabinet privé, devient un médecin à la mode et se fait rapidement une très belle clientèle. Voilà pour l'apparence. En réalité, la vie de Laennec se confond presque totalement avec le combat contre la tuberculose et sa forme la plus grave, la phtisie galopante. Au début du 19e siècle, la seule connaissance que l'on ait de la maladie provient de la dissection des cadavres. Les médecins ont ainsi acquis une très bonne connaissance de l'organisation histologique des lésions pulmonaires, en particulier du stade terminal, la phtisie. Ils sont en revanche beaucoup plus démunis dans l'exercice quotidien de leur profession. Le seul examen clinique à leur disposition est la percussion des poumons qui permet le repérage de zones sourdes correspondant par exemple à une collection d'eau ou de matière phtisique ou d'hypersonorité provoquée par une dilatation excessive du tissu pulmonaire. C'est peu. En désespoir de cause, les cliniciens accumulent les notes consignant par écrit les moindres signes relevés sur les malades. En compagnie de leur confrère et ami, le docteur Pierre Bell, Laennec noircit ainsi des dizaines de petits carnets. Mais Bell diagnostique sur lui-même un stade avancé de phtisie. Découragé, Laennec se retire en Bretagne. Il n'en reviendra que pour assister son ami dans ses derniers instants. Comment lutter? Où chercher? Sur quoi s'appuyer? Le médecin breton ressent durement son dénuement face à celle qu'il ne cesse d'appeler sa vieille ennemie. Comment ne pas douter devant une telle fatalité? Il arrive souvent à Laennec de s'agenouiller simplement devant le crucifix, comme si le médecin, confronté jour après jour à son impuissance, éprouvait le besoin de communier avec la passion du Christ. Face à ces poitrines, qui ne sont pour lui que des tombeaux muets, il n'a d'autre refuge qu'une prière silencieuse. La solution vient par le plus grand des hasards. Un jour, Laennec interrompt sa promenade parisienne pour s'asseoir sur un banc. À deux pas de lui, quelques gamins jouent. Ils se livrent à un curieux manège. Ils ont posé une poutre de bois en équilibre sur un tonneau. Laennec les regarde distraitement. Tout à coup, quelque chose l'intrigue. Il se lève, s'approche, il leur demande à quoi ils jouent. L'un d'eux l'invite à coller son oreille à une extrémité de la poutre. Laennec s'exécute. Aussitôt, un gamin commence à gratter l'autre extrémité avec son couteau. Et Laennec entend les bruits. C'est l'illumination. Il rentre chez lui, se précipite sur un vieux carnet vierge, en arrache quelques pages, les enroule sur elle-même pour en faire un tuyau, consolide ce dernier avec une ficelle, le voici au chevet d'un malade. Fébrilement, il lui demande d'ouvrir sa robe de chambre et pose le tuyau de papier sur sa poitrine. Il lui demande d'inspirer, d'expirer, de tousser. Chaque fois, il écoute et entend des bruits différents, tout un langage qu'il faut déchiffrer, un monde inconnu. Le stéthoscope est né, et avec lui la clinique moderne. Grâce à lui, le médecin peut espérer avoir accès aux lésions du malade. La diversité des bruits, des râles, des souffles, des crépitements et autres sifflements transmis par le stéthoscope doit correspondre aux différents états pathologiques des poumons. Telle est l'intuition profonde de l'ANEC. La mise en relation des lésions trouvées lors de la dissection et des signes auditifs révélés par le nouvel instrument rend intelligible, par l'auscultation, ce que l'on ne connaissait que par l'autopsie. D'autres que lui, suivant la voie qu'il avait tracée, mettront au point l'auscultation cardiaque. Désormais, c'est l'ensemble de la cage thoracique qui livre ses secrets. C'est que la découverte de l'ANEC est révolutionnaire. Grâce à elle, le médecin peut désormais diagnostiquer la tuberculose avec sûreté, isoler des pathologies pulmonaires qui n'ont rien à voir avec elle, suivre pas à pas les progrès de la phtisie dans l'organisme. L'ANEC voudrait reprendre l'usage du stéthoscope, mais il se heurte rapidement à une violente opposition. Comment faire la part de la jalousie, de l'étroitesse d'esprit, de l'intolérance, dans l'hostilité que manifestent tant de médecins pour la méthode stéthoscopique? Emmené par Brousset, breton comme lui et figure de proue de la vie mondaine parisienne, ses collègues tournent l'ANEC en dérision. Il est même accusé de charlatanisme. Son engagement chrétien n'arrange rien, en un temps où l'athéisme scientifique croit pouvoir triompher des vieilles superstitions. Cette campagne de calomnie est d'autant plus incompréhensible que la découverte de l'ANEC est sans danger pour le malade. Le médecin de Quimper ne s'est jamais avancé sur le terrain de la thérapeutique de la phtisie. Sur ce point-là, il se satisfait bon gré mal gré de l'impuissance de son époque. En revanche, il se bat pour mettre au point une méthode de diagnostic fiable et qui plus est non-invasive pour le patient. Devant cette violence, l'ANEC se replie silencieusement sur son travail et ses recherches. Entouré de ses élèves, disciples et compagnons de la première heure, il accumule les observations. Quelques diagnostics particulièrement brillants achèvent d'asseoir sa réputation, comme celui d'une pleurésie liquidienne chez une jeune femme que l'un de ses adversaires considérait comme présentant une phtisie en phase terminale. Ponctionnée à temps, sous la seule responsabilité de l'ANEC, la jeune femme se rétablit. Le débat devient public. Bientôt, il passe les frontières. On est pour ou contre l'auscultation? C'est dans l'Europe entière que l'on discute désormais de l'invention du médecin de Quimper. On le presse de commercialiser le stéthoscope. Il persiste à vouloir d'abord mettre sa méthode au point. La fortune est à portée de main. Il lui tourne le dos. Il a construit son instrument, il le perfectionne sans cesse, il découvre jour après jour ses possibilités dans le diagnostic des maladies pulmonaires. Il demeure inébranlable, même face à ses proches. Son obstination est récompensée en 1819. La première édition de son traité de l'auscultation médiate voit le jour. Le contact quotidien avec des malades tuberculeux, des consultations interminables, un service à l'hôpital constamment exigeant, des dizaines de nuits passées à consulter ses notes dans la solitude, à les examiner à la lumière falote d'une bougie, à opérer des dizaines de rapprochements, à synthétiser ses observations pour dicter son livre, ont épuisé l'ANEC, qui se découvre une forme débutante de phtisie. Son tour est venu. Sa vieille ennemie frappe à la porte. L'ANEC sent qu'il s'éloigne progressivement du monde des vivants et se bat cependant. Après de longues hésitations, il épouse la concette d'Argoult, visiteuse de malade qu'il a fidèlement secondée pendant toutes les années de lutte. Il veut encore croire à la vie. Ses ennemis les plus farouches perdent pied devant l'évident succès de l'auscultation. Tandis que l'ANEC se bat contre la mort, la gloire arrive enfin. En 1822, il devient professeur au Collège de France et succède à Jean-Nicolas Desmarais à la clinique de la Charité à Paris et publie une nouvelle édition de son traité d'auscultation. Âgé d'à peine 45 ans, l'ANEC meurt le 13 août 1826, comme il a vécu, abandonné dans les bras de Dieu.
Retrouvez les poussières d'étoiles sur le net, en audio ou par écrit, poussièresd'étoiles.fm, poussièresd'étoiles au pluriel, .fm.